Du 7 avril au 11 juillet, les archives et bibliothèques départementales accueillent une exposition consacrée à l'âge d'or des sciences arabes. Éric Delpont, bonjour.
Bonjour.
La science et le savoir n'ont pas de frontières, mais connaissent parfois de grands développements dans un contexte politique ou culturel particulier. Alors peut-être dans ce registre, qu'entend-on exactement par science arabe ?
Alors ce qu'on appelle les sciences arabes, en fait, ce sont tous les savoirs qui ont été transcrits et qui se sont diffusés par la langue arabe. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que tous ces savants n'étaient pas forcément d'origine arabe, non plus d'ailleurs que de confession musulmane, mais l'étendue du territoire de l'Empire arabo-musulman, notamment du 9e au 15e siècle, a fait qu'il y a eu une sorte de communauté d'intérêt et de langue à la langue arabe par laquelle s'est transmis, s'est diffusé toute cette science.
Et j'imagine un échange sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, peut-être un héritage aussi de la Grèce.
Voilà, tout à fait, parce que ce qu'on appelle les sciences arabes, donc ces sciences qui s'expriment en arabe, ne sont pas nées d'un désert. Il y a eu, à la fin de l'Antiquité, avec la première expansion musulmane, une sorte de, réappropriation des savoirs de l'Antiquité, évidemment de la Grèce, mais pas simplement de la Grèce, puisque l'étendue du territoire musulman gagnant énormément également en Asie, il y a eu un contact avec la science indienne, sans oublier bien entendu les héritages plus anciens de la Mésopotamie. Et de cette nouvelle fusion est née ce qu'on va appeler la science arabe, sachant que c'est pas simplement une reprise d'héritage ancien, mais va se développer tout un appareil critique des anciens textes notamment, et à partir de là, avec l'expérience, les sciences vont se développer. Et tout ce phénomène se fait évidemment sous l'égide et sous le mécénat des califes, notamment des califes abbassides qui régnaient depuis Bagdad.
Alors cet âge d'or, il recouvre quelle période ?
Alors nous, ce qu'on appelle l'âge d'or, c'est du 9e au 15e siècle. Alors, disons que c'est peut-être à ce moment-là que la civilisation dans les pays arabo-musulmans est la plus développée. Et surtout, si on la compare à l'Europe de la fin du Moyen-Âge, c'est à ce moment-là que la civilisation arabe est bien en avance sur ce que nous, on connaît sur le continent européen.
Alors, quels étaient les facteurs qui favorisaient cette avance des sciences arabes à cette époque ?
Alors, ce qu'il faut bien savoir, et peut-être là, c'est une manière de combattre certaines idées reçues, c'est que dans le texte coranique lui-même, il y a une invitation à la science, c'est-à-dire toujours aller plus loin dans la connaissance, parce que aller plus loin dans la connaissance du monde, pris au sens large, est aussi une façon de reconnaître quelle est l'œuvre divine. Et contrairement à certaines idées qui peuvent être véhiculées aujourd'hui, où parfois, à tort, l'islam est associé à une sorte de refus du progrès, on s'aperçoit que dans les premiers siècles de la civilisation arabo-musulmane, il y a eu vraiment une volonté qui a émané des dirigeants eux-mêmes, c'est-à-dire que les califes ont fondé notamment à Bagdad ce qu'on appelait la Maison de la Sagesse, qui réunissait à la fois des traducteurs pour pouvoir mettre en arabe tous les textes anciens, et c'est aussi par ces traductions arabes que ces textes anciens, notamment grecs, seront ensuite transmis à l'Europe. Et pendant longtemps, dans l'histoire générale des sciences, on n'a pas voulu reconnaître à la science arabe une place importante. On l'a considérée comme un chaînon de transmission des savoirs anciens vers l'Europe de la Renaissance. Alors que, comme je disais plus tôt, il y a eu vraiment une réflexion, une critique et un développement, et aussi la naissance de nouvelles disciplines. Je pense par exemple à l'algèbre ou encore à la trigonométrie.
Alors à propos de ces disciplines, justement, lesquelles étaient particulièrement développées ? Les mathématiques que vous venez d'évoquer, mais peut-être aussi la médecine ?
Alors il y a eu les mathématiques, et en rapport avec les mathématiques, évidemment, l'astronomie. Il y a eu aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences de la vie. Et là encore, dans le domaine, que ce soit de la pharmacopée, bien entendu, mais également de la médecine, si on prend par exemple l'œuvre d'Ibn Sina, qu'en Occident on appelle Avicenne, ses écrits sont restés, d'actualité, même en Europe, jusqu'à la fin du XVIIe siècle. C'est-à-dire que sa façon d'approcher le mal chez le patient, d'organiser aussi en une sorte de typologie, les différentes maladies, a vraiment servi de modèle. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'à une époque où n'existait pas un certain nombre de médicaments, comme aujourd'hui, je pense notamment à certains anesthésiques ou à des médicaments à molécules très développées, évidemment, le rôle du médecin était avant tout de conserver la bonne santé de son patient. Et pour cela, il y avait toute une règle, une hygiène de vie qui faisait aussi quelque part le ciment de cette société arabo-musulmane.
Des sciences de la vie, des sciences de la nature, des sciences dures, mais est-ce que les sciences humaines ont aussi leur place parmi ce panorama des sciences arabes?
En corollaire de la médecine, bien entendu, et Avicenne lui-même le disait, que ce qu'on appelle les soins de l'âme étaient évidemment très importants, à la fois dans la conservation de la bonne santé, mais également quand il s'agissait de guérir le patient d'une maladie. Et on a d'ailleurs gardé la trace architecturale de ce qu'on appellerait peut-être des asiles, notamment en Syrie, où en fait il y avait différentes salles où on sait qu'était mise en œuvre une certaine musicothérapie, notamment justement pour calmer les esprits un peu, je dirais pas échauffés, mais à l'ample hors norme. C'était... Et à côté de la musicothérapie, il y avait également l'utilisation de l'eau très importante.
Cette exposition a été présentée au public pour la première fois en 2006, je crois. C'était à l'initiative de l'Institut du Monde Arabe à Paris. Est-ce qu'on trouve à Marseille les mêmes pièces, et peut-être parmi l'ensemble des pièces, lesquelles vous semblent les plus importantes, les plus marquantes?
Alors, quand on a présenté l'exposition à l'Institut du Monde Arabe, évidemment, nous avions réuni énormément de pièces qui nous ont été prêtées par des musées et des bibliothèques à un niveau international. Et dans le cadre d'une itinérance d'exposition, de tels prix ne peuvent pas être reconduits, notamment pour des raisons de conservation. Les manuscrits ont des délais de présentation assez limités dans le temps. Donc on a imaginé différents artefacts qui permettent aux visiteurs de cette version itinérante, de cette adaptation de l'exposition, de retrouver les contenus que nous avions à Paris. Et c'est ainsi que nous avons à la fois des facsimilés, par exemple dans le domaine des manuscrits, puisque le manuscrit est important, puisqu'il a servi de base à la transmission de la connaissance. Donc nous avons des facsimilés de manuscrits anciens, et nous avons aussi ce qu'on appelle des manuscrits en feuilletoir, c'est-à-dire ce sont des petits livrets que les visiteurs peuvent eux-mêmes feuilleter, et toute l'exposition en plus a été conçue bilingue, c'est-à-dire en français et en arabe, de façon à ce que comment pouvoir satisfaire aussi les attentes de différents publics. Et à côté de ces facsimilés ou manuscrits en feuilletoir, nous avons évidemment également des modules audiovisuels qui développent certains sujets, mais ces modules avaient été conçus pour l'exposition quand elle a été présentée à l'Institut. Et nous avons également des maquettes, parce que là aussi, pour le jeune public, c'est très important, parce que souvent, une petite manipulation permet de comprendre très vite ce qui, en termes de discours, prendrait un quart d'heure.
La dimension pédagogique et l'interactivité sont donc bien présentes dans cette exposition. Bien présentes aussi des interventions directes, notamment sous forme de conférences. Je pense par exemple à celle qui va intervenir le 26 mai avec Ahmed Djebbar, qui est historien des sciences. D'autres conférences aussi à venir.
Voilà, et Ahmed Djebbar a été le commissaire scientifique de l'exposition quand elle a été présentée à l'Institut du Monde Arabe. C'est un historien des sciences, et c'est quelqu'un qui est absolument passionné par son sujet et qui généralement enflamme son auditoire. Comme autre intervention, nous aurons une autre personne qui faisait partie du comité scientifique de l'exposition quand elle a été présentée à Paris. Il s'agit de Danielle Jacquard, elle qui est plus spécialisée justement sur toute l'histoire de des hôpitaux, de la médecine, de la chirurgie. Il y aura également Françoise Michaud. Et parce que il y a aussi une dimension qui nous tenait beaucoup à cœur dans cette exposition, c'est-à-dire que nous l'avons conçu comme trois environnements complémentaires. Il y a d'abord ce qu'on a appelé la découverte du monde, c'est-à-dire au niveau de l'univers et de la planète Terre. Ensuite, il y a l'environnement plus humain. Et enfin, il y a une dimension plus en liaison plus avec l'imaginaire, puisqu'il s'agit d'explorer les liens entre les sciences et les arts. Et parmi les sciences, dans ces liens entre sciences et arts, on pense évidemment, par exemple, à l'architecture. Mais il y a une donnée qui est fondamentale aussi dans l'histoire des sciences arabes, c'est au niveau de la musique. Et par exemple, au 9e, 10e siècle, la musique était considérée comme une science au même titre que les mathématiques. Et dans la notation des notes, des sons, des variations des sons, ça a donné lieu à différentes théories, à différents écrits, et qui restent encore d'actualité aujourd'hui. Donc, si vous voulez, c'est vraiment trois univers qu'on ne peut pas détacher de toute façon les uns des autres, mais ça donne comme ça un peu une image globale à différentes échelles de l'implication des sciences dans des domaines à la fois savants, mais des domaines aussi plus quotidiens.
Entre le savant et le populaire, la musique, le rendez-vous, c'est avec Fouad Didi et l'orchestre Tarab, et ce sera le 9 juin. Évidemment, dans une exposition, c'est l'ensemble des pièces qui font sens, mais si vous en aviez à citer une, qui soit particulièrement de nature à faire venir un très large public parce qu'elle est extraordinaire.
Alors, en complément de l'exposition itinérante elle-même, l'Institut prête aux archives et bibliothèques départementales une cinquantaine de pièces qui sont issues des collections du musée de l'Institut du monde arabe. Et parmi celles-ci, justement, on a fait un choix qui permet d'illustrer un peu les différents domaines abordés dans l'exposition. Alors, bon, c'est toujours délicat de choisir une pièce en particulier. Moi, je sais par habitude que le public est très réactif à ce qu'on appelle les astrolabes planisphériques, parce que ce sont des instruments à la fois, complexes, curieux, et en même temps, ce sont des instruments d'une très belle facture. Et ça, c'est aussi un peu quelque chose qui est propre, peut-être davantage plus qu'à d'autres civilisations, c'est que dans le monde arabo-musulman, même un objet, un instrument, un objet utilitaire, n'est jamais omis sa dimension esthétique. Et dans les objets que nous présentons, que ce soit des instruments d'astronomie ou des instruments pour préparer des médecines, il y a toujours une recherche de délicatesse, de raffinement, et plutôt que de choisir un objet en particulier, on a réfléchi en termes d'ensemble. On va essayer justement de construire des vitrines qui donnent à comprendre à la fois la théorie et la pratique des différentes disciplines.
L'âge d'or des sciences arabes, c'est aux archives et bibliothèques départementales Gaston Defferre, c'est 20 rue Mirès à Marseille, dans le 3e arrondissement, et c'est du 7 avril au 11 juillet. Les infos sont sur le site www.archive13.fr et les renseignements au 04 91 08 61 00.